Et pour débuter cette émission, nous accueillons Amandine au 39-21. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous Amandine?
Très bien, et vous?
Mais ma foi, tout va bien. Tout va bien. J'ai un petit chat dans la gorge depuis le match de foot l'autre soir, mais bon, il part progressivement.
Je crois qu'il vient chez moi là.
Écoutez, c'est l'émotion.
Je pense un petit peu.
Qu'est-ce qui vous amène, Amandine? D'abord, vous nous appelez d'où et quel âge avez-vous?
Alors, j'ai 32 ans et je suis de Metz.
De Metz. On dit Metz, hein, c'est ça?
On dit Metz. Metz. Comme si, voilà, on ne prononce pas le T.
D'accord. Donc, je sais que les gens de Metz n'aiment pas qu'on prononce le T.
Oui, hein. Exact. Oui, on y tient.
Qu'est-ce qui vous amène, Amandine?
Alors, j'aimerais parler handicap, parentalité et accessibilité, si ça va pour vous.
Ah, écoutez, moi, tout me va.
Allez, c'est parti. Donc, moi, ça va faire 6 ans que je suis paraplégique suite à un accident de la vie. Et en janvier, ça fera 2 ans que je suis maman.
Oui.
Et je pense que ça peut être intéressant de démystifier un petit peu tout ça et puis parler un petit peu de l'accessibilité qui tourne autour de tout ça. L'accessibilité, c'est pas juste une rampe ou un plain-pied. C'est aussi l'accès qu'on peut avoir aux soins, mais également au matériel de puériculture. Et ça n'a pas été très facile pour nous. J'ai rencontré une gynéco qui était excellente,
oui.
Mais par exemple, sa table d'examen n'était pas accessible. J'ai eu des petits soucis, j'ai dû me rendre aux urgences gynécologiques. La table n'était pas accessible non plus. Vous voyez ? Donc c'est toutes ces petites choses comme ça que j'aimerais... partager, que j'aimerais faire réfléchir pour pouvoir avoir un monde meilleur pour tous et accessible.
Complètement, mais alors, en fait, votre observation, là, elle va à l'encontre d'une amélioration dans les cabinets, par exemple, des gynécos?
Oui, ça serait un travail à faire pour rendre accessible l'accessible. Alors moi, je suis en fauteuil roulant. Après, je ne sais pas pour les autres handicaps et je ne peux pas me prononcer pour les autres handicaps. Mais en fauteuil roulant, il faudrait des changements à tout ça, quoi.
Alors, on va quand même raconter un peu votre histoire, Amandine, parce que tout ce que vous nous racontez déjà là, au début de votre témoignage, ça vient tout de même d'un tempérament, parce que vous êtes une jeune femme pleine de vie, et après cet accident de la vie, vous dites que très vite, vous avez voulu reprendre la vie où elle s'était arrêtée. Racontez-moi comment vite est venue cette réflexion.
Oui, je vais. Quand j'ai eu mon accident, comme vous dites, j'ai voulu reprendre le cours de ma vie. J'ai voulu sortir le plus vite de centre de réadaptation, donc être le plus autonome possible, le plus rapidement. J'ai voulu reprendre mon travail, mon activité sportive. Par exemple, je courais avant mon accident et je m'étais inscrite à mon premier 10 km, je m'étais fixé un semi-marathon. Donc, c'est des choses que j'ai réalisées après en fauteuil adapté. Et reprendre le travail, du coup, c'était réadapter mon poste de conduite pour pouvoir me véhiculer jusque mon travail. Donc, toute l'autonomie c'était mon cheval de bataille, quoi.
Oui. Ouais. Et je vois que vous avez repris donc votre travail de fleuriste,
oui.
Et que et que ça a surpris beaucoup de monde. Pourquoi en fait?
Disons que le métier de fleuriste, comme beaucoup de métiers autour de l'artisanat, en termes d'accessibilité, c'est un petit peu c'est des métiers qui sont très physiques. Donc,
oui, voilà. C'est vrai. Et mais alors vous n'êtes pas que fleuriste, que vendeuse. C'est-à-dire vous êtes fleuriste, vous êtes patronne ou
Non, je suis responsable de magasin, mais je suis salariée.
D'accord, mais bon, en tant que responsable, vous devez réceptionner les fleurs, c'est ça qui est très physique ou
Tout est un peu physique, hein. Le porter des seaux, les gerbes de deuil. Ça demande, Ça demande une certaine capacité physique. Hein. Le téléphone sonne, j'ai un seau dans les mains. Vous voyez, en fauteuil roulant, c'est un petit peu compliqué de courir derrière le téléphone pour répondre au client. Alors que enfin, je peux pas. J'ai plus la possibilité actuellement de faire, on va dire, deux choses en même temps. Si j'ai un bouquet dans les mains, je ne peux pas me déplacer pour décrocher le téléphone.
D'accord.
Si j'ai un bouquet dans les mains et que je suis dans l'atelier, je ne peux pas aller voir le client qui vient de rentrer dans le magasin en disant « j'arrive ».
Vous êtes combien dans ce magasin ? Vous êtes combien dans ce magasin ?
On est 5.
Vous êtes 5, d'accord. Et c'est vous la responsable ?
Alors, on est 2 responsables, mais oui.
D'accord. Et est-ce que vous avez, au-delà des regards surpris de votre retour au travail, est-ce que vous avez senti une sorte de jugement des gens, en tout cas des comportements un peu hors normes, ou en tout cas un peu limite à votre égard ?
Alors, il y a eu un peu de tout. Ça fait un moment que je suis dans le magasin dans lequel je travaille, il y a beaucoup de clients fidèles qui ont été très contents de me revoir et émus. Ensuite, il y a des clients de passage qui sont toujours... C'est de la curiosité. C'est vrai que moi, le regard, j'en fais pas forcément abstraction, mais parfois, le regard peut gêner mes collègues, en fait. C'est surtout mes collègues après qui viennent me voir en me disant « Ah, le client là, ça m'a gêné, la façon dont il vous regardait. »
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est plus... voilà. Oui, tout à fait.
Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que les gens ont un... En tout cas, pas tout le monde, hein, mais quel est le problème des personnes quand il se passe ça ? Quel est leur problème avec le handicap, à votre avis ?
Le problème, je sais pas si c'est vraiment un problème. Après,
une gêne.
Je pense que parfois on a, oui, je pense que voilà, le fait de pas connaître, on se demande, ils doivent se poser des questions. Alors parfois il y en a qui les posent, parfois il y a 2 ou 3 remarques, et puis parfois c'est juste un regard. C'est l'inconnu. L'inconnu fait peur. Donc, au travail, c'est très très rare que je me sente handicapée par un regard ou quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé, des réflexions de clients, ça m'est déjà arrivé, mais c'est très très rare.
Très très rare, bon.
Oui, c'est très très rare.
Alors, on va parler de cette vie qui reprend où elle s'est arrêtée avec vos envies de grossesse. Hein. Vous dites qu'il y a, peu d'infos disponibles sur la grossesse et le handicap, ce qui est très étonnant, hein, parce que cela voudrait dire que finalement, les femmes porteuses de handicap, on ne pense qu'elles n'auront pas d'enfants, en fait, que la maternité, ça n'est pas pour elles.
Mais on ne sexualise pas les personnes en situation de handicap, ou très peu, ou on tombe vite dans des dérives un peu perverses. On reçoit des... Enfin, moi, je sais que je suis sur Instagram, parfois, il y a quelques messages... C'est particulier, hein, donc c'est vrai qu'il y a tout un regard là-dessus. Comment t'es tombée enceinte, comme tout le monde, quoi. Je vais pas faire de dessin.
Ouais, non, mais c'est
voilà. Mais oui, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Comment une personne en situation de handicap peut donner la vie, quoi.
Vous étiez déjà avec votre compagnon, votre mari ? Vous êtes mariée ?
Oui.
D'accord.
Oui,
très bien.
On est mariés.
Donc, vous êtes allée à la pêche aux infos, toute seule ?
C'est ça. Avant de lancer le projet, j'ai d'abord contacté ma gynéco qui m'a suivie. J'ai d'abord fait une consultation avec elle pour savoir si elle se voyait suivre une grossesse d'une femme paraplégique. Donc tout ça en amont, on a fait tout un travail là-dessus, c'était OK. Donc ça permet aussi de souffler un petit peu avant de lancer le projet bébé et de voir le test positif une fois la grossesse entamée, quoi.
D'accord. Donc, comment tout ça s'est passé pour vous ? Racontez-moi quelles embûches vous avez rencontrées, comment tout ça s'est déroulé pour vous ?
Alors, l'embûche principale, ça va être l'étape
d'examen.
Ouais, ça, l'étape d'examen qui sont pas accessibles. J'ai fait une fausse couche avant ma grossesse, hein, donc je me suis retrouvée aux urgences. Donc on est déjà dans un état où on apprend qu'on a fait une fausse couche, on est triste. On est face à un endroit où c'est pas accessible, alors que c'est un hôpital qui est neuf en plus de ça. Donc c'est psychologiquement, on prend deux claques. Le manque d'accessibilité, ouais, plus le fait d'avoir fait une fausse couche. Et après, tout au long de la grossesse, ça va être... moi, je sais, quand j'ai eu mon accident, on m'avait parlé plutôt d'une césarienne. Et finalement, ma gynéco, en cours de grossesse, m'a dit « Les dernières études prouvent qu'il vaut mieux faire une voix basse pour votre situation. » Donc moi, là, je me suis retrouvée un petit peu chamboulée. Donc j'ai cherché... des contacts. Donc j'ai une sur Paris qui est également paraplégique, qui a été suivie sur l'Institut Montsouris, où il y a un pôle gynéco et handicap. Donc j'ai eu contact avec une sage-femme qui m'a rassurée, qui m'a dit que si les examens cliniques qu'elle suggérait étaient ok, ben il n'y avait pas de problème pour que j'accouche par voie basse, quoi.
D'accord,
donc je me suis retrouvée face à ça. Ensuite, on nous dit d'arrêter le traitement pour une vessie hyperactive. Et après, on nous dit de le reprendre parce qu'on a risque pour un accouchement prématuré. Donc c'est vrai que ce n'est pas de tout repos.
Et vous avez fini tout de même par accoucher de votre petite fille. Mais la galère, visiblement, a continué.
Très très bien passé. L'accouchement, tout s'est très bien passé. L'accouchement s'est bien passé. Un encadrement au top, une équipe au top. Là-dessus, vraiment, ma gynéco, je la remercie encore pour m'avoir motivée à accoucher par voie basse, parce que je ne m'en pensais pas capable. Et finalement, tout s'est très très bien passé. Après, c'est les matériels de puériculture. Et puis maintenant, actuellement, par exemple, j'ai ma fille à la crèche et c'est le stationnement.
Le stationnement, ah oui, oui. Ouais. Mais vous avez cherché une assistante maternelle avant la crèche,
je suppose. Oui,
pour
oui,
vous,
c'est
pour
ça.
Pour vous, je suppose que la sélection se réduit, en fait.
Donc, exactement. J'étais encadrée par la PMI parce que j'avais quelques craintes. Donc la PMI suivait mon dossier pour pouvoir faire... garder ma fille. Et donc pour nous c'était plus simple une crèche parce qu'on savait que ça allait être accessible normalement. Et donc du coup chercher une j'ai eu quelques petits soucis avec les crèches de notre commune, et donc qui nous ont fait comprendre qu'il fallait chercher une assistante maternelle si on n'était pas content. Et donc chercher une assistante maternelle quand on est en situation de handicap, c'est chercher une assistante maternelle qui est accessible avant de chercher une assistante maternelle avec qui on partage les opinions, la façon de garder son enfant.
Et en fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, finalement, c'est que lorsqu'on est handicapé et qu'on devient maman, il n'y a rien de prévu, pratiquement, pour vous. À partir du moment où les crèches de votre municipalité vous conseillent de chercher une assistante maternelle, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que vous n'y aviez pas accès, vous, en tout cas, votre petite fille n'y avait pas accès parce qu'on ne pouvait pas faciliter l'accès pour vous ?
Alors en fait, c'est un système de points d'admission pour avoir notre enfant d'admis dans les crèches de notre commune.
C'est quoi cette histoire de points ?
En fait, on a des points en fonction de si les parents travaillent, si les parents... Enfin, j'ai plus la grille, mais il y a des points qui sont attribués en fonction de plusieurs critères.
D'accord. Et est-ce qu'on a des points supplémentaires parce que, justement, on est handicapé ?
On a 15 points.
D'accord, ça fait beaucoup ou pas ? Je m'en rends pas compte.
Non, c'est ridicule. Ridicule. Et quand on nous dit, quand le service de la petite enfance de la ville de Metz nous sort que 15 points, c'est déjà ça, et que et qu'en gros, on n'a pas à se plaindre, et que si on n'est pas content, ben, on n'a qu'à aller chercher une assistance maternelle. Ça fait plaisir, surtout quand on vient d'accoucher. On a encore les hormones et tout ça qui suivent. On a juste envie de tout envoyer balader, quoi. de mettre tout le monde dans un fauteuil roulant et qu'ils se rendent compte des difficultés qu'on rencontre au quotidien.
Est-ce que ça devrait être une expérience de tenter ça de mettre à un moment, je ne sais pas moi, 200 habitants d'un quartier en chaise roulante pour qu'ils prennent connaissance de toutes les difficultés d'accessibilité et puis de tout, hein, finalement.
Alors, les habitants, je pense les élus.
Oui, les élus, mais il y a des élus dans les habitants aussi. Hein,
oui, tout à fait, oui. Mais ceux qui nous font les lois, ceux qui nous pondent les critères d'admission, toutes les personnes qui sont décisionnaires devraient essayer un fauteuil roulant. On parle de mon handicap, hein, mais devraient essayer, même devraient s'expérimenter à tout type d'handicap pour pouvoir comprendre au mieux nos besoins.
Parce que vous avez ce sentiment qu'au final, les élus ne comprennent pas toutes vos difficultés, ils ne vous entendent pas, ils ne comprennent pas tout simplement.
Ah, totalement, oui, totalement.
Ils ne comprennent pas. D'accord.
Ah oui, bah quand on me dit si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à chercher une assistante maternelle, moi je suis désolée. La personne-là ne me l'a pas dit en face, elle l'a dit à la personne de la PMI qui a insisté fortement pour qu'on ait une place en crèche. Une semaine avant que je reprenne le travail, on n'avait toujours pas de place en crèche. Hein. C'est une crèche privée qui a pris le relais et qui était outrée de ce qui s'est de ce qui s'est passé pendant de longs mois.
Moi, je vais vous dire, je trouve ça franchement scandaleux ce que vous me racontez. Je trouve ça scandaleux parce que, au final, on se rend compte, en vous écoutant, Amandine, que comme de nombreuses personnes, vous avez connu le handicap de manière accidentelle. Hein, c'est ce que vous me disiez.
Et,
et finalement, j'ai l'impression que dans la tête des gens, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Hein.
Je pense aussi, et je pense qu'on ne s'imagine pas qu'une personne en situation de handicap peut être autonome, peut se débrouiller seule, peut aller travailler, peut avoir des loisirs, peut être seule et avoir envie de vivre, quoi.
Mmh.
Voilà. Moi, en ce moment, là, depuis plusieurs semaines, mon cheval de bataille, c'est les places de stationnement pour aller à la crèche. Sur le parking de la crèche, c'est un parking privé et donc payant. Il y a plusieurs commerces. Il y a un fleuriste, il y a un coiffeur, il y a 4 ou 5 restaurants, il y a un kiné, une boulangerie, une banque, il y a un centre de dialyse. Il y a vraiment et nombreux bureaux. Dites-moi combien de places handicapées vous pensez qu'il puisse y avoir sur ce parking?
Je ne sais pas, une quinzaine, dizaine.
Une place. Une place handicapée pour tous ces pour tous ces ces bâtiments. Donc depuis un mois, je partage régulièrement d'ailleurs sur Instagram ma petite situation où je n'arrive pas à me garer sur la place pour pouvoir aller chercher ma fille à la crèche.
Oui.
D'où l'accessibilité. Enfin, voilà, je veux juste aller chercher ma fille à la crèche comme tout parent irait chercher son enfant à la crèche.
Oui, et comme. Enfin, oui, j'allais encore vous demander, mais comment vous vous expliquez ça? Ce sont les élus. Mais ça m'étonne tellement, en fait, qu'on ne se mette pas à la place des personnes comme vous. Ça doit être rageant, en fait. Quel sentiment vous avez quand vous apercevez de tout ça? Vous vous dites quoi? On s'en fout de nous, en fait, on ne fait pas attention à nous. Parce qu'il y a eu quand même de nombreuses améliorations, Amandine, hein, dans
oui.
pas mal de municipalités, de nombreux accès ont été améliorés, surtout dans les créations, de commerces ou d'établissements ou de centres, vous savez, de centres commerciaux. Mais c'est vrai que ça n'est pas assez du tout. On est d'accord.
Non, il y a encore un travail à faire. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Hein. Puis, j'ai envie de dire, la loi elle est sortie en 2005, on est en 2021. Et, il y a encore du travail à faire. Quoi. Mais qu'est-ce que ça me donne? Déjà, moi, ça me met dans un état de stress. Dès que je pars du travail, je me dis, est-ce que je vais avoir la place? Est-ce que je vais pouvoir me garer? Est-ce que je vais devoir appeler les filles de la crèche pour qu'elles viennent me mettre ma fille dans le siège auto? Donc déjà, il y a un petit sentiment. J'arrive, je suis déjà un peu stressée sur le parking. Et puis, J'ai dos, non, il n'y a pas la place aujourd'hui.
Oh, voilà,
Donc,
voilà.
voilà. Donc, parfois, on dit, je suis agacée. Et ça m'arrive d'être énervée. Je suis énervée, par exemple, la dernière fois, c'était un taxi qui était sur la place TMR. Et la fois d'avant, c'était un véhicule donc sans macarons. Mais par contre, à l'arrière, il y avait un autocollant conduite accompagnée. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à conduire aux nouvelles générations.
Enfin, c'est bon. De toute façon,
Voilà.
ces places handicapées, si vous saviez le nombre de fois où tous les week-ends, hein, je vois, ne serait-ce que dans les centres commerciaux, hein, le nombre de gens qui ne respectent en rien ça, c'est hallucinant. Vraiment
Non.
hallucinant.
Mais, alors, ce matin, je commençais à 7 heures hein, au travail. Hein. Ce matin, j'ai pas la première personne à qui j'ai parlé, c'est pas mon mari, c'est pas ma fille. Il dormait quand je suis partie de la maison. La première personne à qui j'ai parlé, c'est un monsieur qui était garé à cheval sur la place. Je lui ai dit, pardon monsieur, vous êtes à cheval sur la place Andy, je peux pas sortir avec mon fauteuil. Il était même pas 7 heures du matin. C'est la première personne à qui j'ai parlé. Vous êtes à cheval sur la place Andy.
Et il l'a pris au moins, il a déplacé sa voiture ou il est
Oui,
resté.
il a déplacé, c'est ben, pardon madame, j'avais pas vu, c'est ça. Quand on en parle, c'est ça. La dernière fois, on est parti en course avec mon mari. La place a été pareille. Deux petites mamies qui étaient en course, elles sont sorties à ce moment-là. J'aurais été seule avec ma fille, j'aurais pas pu venir ici, j'aurais pas pu venir me garer parce que j'avais pas la possibilité de sortir de la voiture et de sortir ma fille du siège auto. Ah mais pardon, fais toujours attention parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver. En attendant, ben moi j'en étais bloquée.
Oui, et puis je répète, il y a encore beaucoup trop d'incivilité par rapport à ces places handicapées. Ne serait-ce que je vais vous dire, les stations-service sur l'autoroute. Vu que les places handicapées sont les premières, hein,
Oui.
les mieux situées, c'est normal, près de l'entrée. Mais je vous jure que vous mettez un quart d'heure, vous regardez le nombre de personnes qui utilisent ces places, mais tranquille, hein, sans problème. Vous les regardez,
Mais
parce que parfois.
parce que vous savez quoi? Les personnes handicapées, elles partent en vacances. Alors
Ben voilà,
pourquoi venir
mais suis-je
d'autoroute?
bête, c'est vrai. Elles ne partent pas. Elles ne partent pas en vacances, elles ne font pas de
Voilà,
sport. Hein.
c'est ça. Elles ne vont pas au restaurant, elles ne sortent pas après 19 h et pas avant 9 h du matin.
Pas exactement, c'est ça. Voilà. Non, mais écoutez, vous avez tout de même le moral, hein, quand même, j'entends. Vous avez une voix qui pétille. Bon,
Il faut.
le petit beau doit y être pour beaucoup. Il y a pas mal de SMS, hein,
C'est
qui
vrai?
tombent pour vous. J'ai quitté Paris pour Lyon. Le pied en fauteuil, cette ville. Bon, ça, c'est un texto qui a
Bon,
été écrit
ben,
n'importe comment.
ça sera une prochaine destination. Par contre, ben, du coup, sur les aires d'autoroute, je ne pouvais pas m'arrêter.
Oui, exactement. Vous êtes une Wonder Woman, vous dit
Oh.
Annie. Et alors, quel peps, votre petite a une sacrée maman. Je
Oh.
trouve qu'Annie. Bon, alors ça, ok. On a toujours des gens qui voyaient ce soir. Je vais vous lire un texto par rapport au SMS que. Par rapport au témoignage d'Amandine. Et le dernier SMS que je lis, accrochez-vous bien ou asseyez-vous, vous qui êtes chez vous. Je trouve cette maman un peu gonflée, qu'elle cherche un autre pays où la solidarité permet aux handicapés de recevoir une pension de 900 euros sans rien demander en retour. Et pour les places handicapées, sachez qu'il y a des handicapés qui ne se voient pas. Bon, bien évidemment, ce SMS n'est pas signé. Et on voit combien. L'intolérance et encore une espèce de certitude dans ce
Oui.
SMS, certitude que ah, les handicapés, on leur file 900 balles, donc qui la ferme, hein. Il
Bah,
y a des, y a, y a des pays où on leur file rien et puis ils la ramènent pas plus. Mais vous savez que, pardonnez-moi, hein, mais on va marquer
oui.
aussi une petite pause, Amandine, parce que
Pas de problème.
Alexandre vient d'arriver et ça veut dire que l'info arrive, le journal de la rédaction
D'accord.
arrive. Mais. Ce genre de SMS traduit bien un esprit français, vous voyez, C'est dingue. Je vous jure que je suis sidéré de lire un SMS comme ça.
J'ai envie de rebondir, mais j'ai envie de rebondir parce
alors,
que
vous savez
j'ai...
quoi ? Vous allez rebondir, mais après la pause, parce que je vais vous le relire pour celles et ceux qui vont nous rejoindre. À tout de suite, Amandine.
Ok, à tout de suite.
Je reviens donc, Amandine, vers vous pour vous relire ce SMS charmant que nous avons reçu par rapport à votre témoignage. Vous voulez que je vous le remette en tête ? Alors, je trouve que cette maman est un peu gonflée, qu'elle cherche un autre pays où la solidarité permet aux handicapés de recevoir une pension de 900 euros sans rien demander en retour. Sans rien demander en retour, c'est énorme. Et pour les places handicapées, sachez qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas. J'invite cette personne tout de même à faire le test que j'ai fait sur les stations-service d'autoroute et elle verra que même si nous convenons, je pense, Amandine et moi, vraiment de bon cœur que des handicaps, bien évidemment, ne se voient pas, sans aucun souci, même en 10 minutes, allez, 10 minutes, voire 5, vous verrez qu'il n'y a aucun respect de ces places handicapées. Maintenant, je vais vous demander de réagir, Amandine, à ce charmant SMS, car il est vrai que si vous recevez 900 euros par mois, qu'est-ce qui vous permet de m'appeler et de la ramener ce soir, vraiment ?
Alors, déjà, j'aimerais dire à cette personne que handicap visible ou invisible, on a un macaron. S'il n'y a pas de macaron sur la voiture, c'est qu'on n'a rien à faire.
Normalement, exactement. Handicapé.
Voilà, hein. Je suis totalement consciente qu'il y a des handicaps invisibles, qu'il y en a d'ailleurs beaucoup plus que les handicaps visibles, et qu'il faut éviter justement de juger au premier œil quand on voit une personne sortir d'une voiture en se disant « elle est debout, elle n'a rien à faire sur cette place », parce qu'on ne sait pas ce qu'a cette personne. Il est fort possible qu'il y ait un handicap invisible aussi derrière.
Voilà. Et
maintenant.
Voilà. Bah, je me disais, elle a oublié l'essentiel. Maintenant.
Les 900 euros, j'aimerais bien les toucher en fait. Parce que actuellement, je travaille. Hein, suite à mon accident, j'ai dû rabaisser mon temps de travail. Hein, de 35 heures, je suis passée à 26 heures parce que je n'ai pas la capacité physique de tenir comme avant. Donc, mon salaire, il s'en est retrouvé imputé. C'est-à-dire que je perds à peu près plus de 300 euros par mois actuellement. Hein. Donc,
qui ne sont pas comblés par une pension.
Absolument. J'ai rien du tout. Rien du tout. J'ai rien du tout à côté. Donc, je veux bien ne pas me la ramener, mais à un moment, j'ai envie de dire, il faut aussi ouvrir les yeux sur un milieu qu'on ne connaît pas. Quoi. C'est pas parce qu'on connaît une personne qui touche une rente ou l'AAH ou je ne sais quoi que toutes les personnes en situation de handicap la touchent. Je ne vais pas travailler pour le plaisir d'aller travailler. J'aime mon métier énormément, mais ça m'énerve parce que ce sont des personnes qui n'y connaissent rien, qui pensent juste que on touche X somme par mois et que ça m'énerve.
Mais vous savez, Amandine, hier soir, nous avions une jeune femme qui s'occupe de migrants. Et j'évoquais toutes les informations et finalement les informations, les fausses informations, les fake news, comme on les appelle. Mmh. Aujourd'hui, c'est à la mode. Et j'évoquais à un moment un SMS qui nous disait d'une manière fort charmante, un peu dans le même style que ce soir, que l'état de la France avec les migrants pouvait être constaté dans le 19e à Paris avec les craqueurs. Voilà. Donc ça voulait dire que si on avait des craqueurs en France, c'était les migrants. Donc voilà un SMS qui prouve combien les migrants ont le dos large on peut les charger de tout un tas de choses. Je me suis permis de rectifier cette chose-là, mais m'étant rendu, parce qu'on a eu un appel ici d'une dame qui habitait le quartier, et comme je suis en moto, j'ai pu me rendre sur place, voir un peu, et comme je passe un peu partout, j'ai pu m'arrêter, discuter avec des gens là-bas, parce que je considère que ces personnes sont d'abord avant tout malades, avant de les considérer comme des pestiférés, et il se trouve que, bien évidemment, une population migrante est venue se greffer sur cette colline des craqués, vous savez, de ces consommateurs de drogue. Mais cette population pauvre est venue se greffer sur un îlot déjà pauvre de gens qui étaient déjà... Voilà. Et donc, je me suis permis de dire que les craqueurs là-bas étaient aux trois quarts titulaires d'un papier français, en tout cas de carte d'identité française. Voilà, je n'ai eu en retour qu'un gentil texto en disant « Et en plus, vous essayez de nous culpabiliser. » Voilà. Méchant ben moi, Olivier que je suis.
C'est ça. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes qui pensent ça, rendez-vous en centre de réadaptation, allez voir les personnes en situation de handicap.
Faites une journée dans un fauteuil.
Fauteuil. Voilà. Mais il n'y a pas que le fauteuil. Il y a tellement d'handicaps. Allez, partagez. Voyez, vivez 24 heures comme une personne en situation de handicap le vit. Et après, on pourra en reparler.
Vous savez, voilà. Amandine, que la BBC, il y a une dizaine d'années, je me souviens parce que c'était le début de Dans les yeux d'Olivier et donc le début des documentaires. Oh non, c'était il y a 14 ans parce que j'étais sur France 4 avant et j'ai commencé l'incarnation de mes documentaires là à ce moment-là parce qu'il y avait en Angleterre un monsieur qui s'appelle Louis Theroux et qui avait commencé ça et donc la mode a été lancée en Angleterre et un journaliste avait tenté cette expérience de se mettre en chaise, ils étaient deux je crois, et donc ils étaient filmés pour voir combien c'était compliqué d'être en fauteuil roulant et aussi pour voir l'attitude des gens par rapport aux personnes qui étaient en fauteuil. Bah, déjà il y a 14 ans hein, et je doute que ça se soit amélioré vraiment, il y a des gens qui considèrent comme cette personne hein, qui nous a écrit ce soir que les handicapés sont des privilégiés, qu'ils ne font pas la queue, qu'ils reçoivent une pension, comme on vous le reproche ce soir. Enfin, tout un tas de choses qui les agacent, finalement. Comme si vous aviez droit à des privilèges. Mais même si c'était le cas, et ça ne l'est pas le cas, mais même si c'était le cas, je pense que les personnes handicapées soient prioritaires partout, il faudrait qu'elle soit prioritaire partout, c'est tout à fait normal. Donc, que ces personnes reçoivent une pension, alors qu'Amandine, vous nous dites que non, ce serait normal que vous ayez une compensation par rapport à ce handicap. Mais voilà, malheureusement, vous ne l'avez pas, et ça n'empêche pas, en tout cas, ces fake news d'avoir la peau dure.
Voilà. Non, mais voilà, les rentes et tout ça, c'est pas, enfin voilà, c'est pas pour tout le monde. Et je sais, une fois, quand peu de temps après avoir repris le travail, j'ai entendu quelqu'un me dire vous reprenez le travail, mais c'est juste pour le plaisir. Je me suis dit, mais non, j'ai besoin de payer mes factures comme tout le monde. Hein. Je suis pas exemptée de mes factures de gaz, mon loyer, mon prêt.
Bien sûr.
Faut les payer tout ça. Hein. Et puis l'handicap, c'est un coût parce que c'est bien beau son histoire de 900 euros, mais un fauteuil roulant, est-ce que vous savez combien ça coûte? Est-ce que on sait combien c'est remboursé? Enfin, c'est tellement.
Dites-le, Amandine.
Mon fauteuil, c'était plus de 6000 euros. J'ai plus les chiffres en tête parce que ça remonte à 5 ou 6 ans. Mais si j'ai eu 50% de mon fauteuil roulant qui a été remboursé, c'est beau. Entre la mutuelle, la sécu, la MDPH. Et c'est des mois de dossiers pour récupérer un minimum d'argent. Donc il y a le fauteuil roulant, la voiture, l'adaptation de la voiture, 5000 euros.
Ouais.
Le fauteuil de douche, 1000 euros. La planche de baignoire, une centaine d'euros. La planche de transfert, 30 euros. Rien n'est remboursé à 100%.
Oui, parce que on en revient à votre petite fille quand elle était bébé, en fait. Je suppose qu'il a fallu mettre tout un tas de... il a fallu adapter tout un la table allongée, tous ces trucs-là.
Alors la table allongée, par un coup de chance, on s'est promené dans une grande enseigne de meubles à monter et c'était une table allongée qui pouvait s'évoluer en bureau. Donc du coup, on l'a monté en tant que bureau et donc pour moi là c'est à bonne hauteur. Donc la table allongée, on l'a trouvée. C'était vraiment le fruit du hasard. Mais par contre, tout le reste, il a fallu bricoler. La baignoire, le lit, tout ça, ça a été du bricolage parce qu'il faut surélever les meubles. Donc le lit, il était en hauteur, il fallait le fixer.
Ouais, c'est,
tout ça, ça a été du bricolage. C'est les amis de mes beaux-parents, mon mari. C'est tout le monde qui réfléchit à... toi, tu penses que ça peut être bien, mais est-ce que tu ne crois pas que ça pourrait être quand même mieux pour toi? C'est tout le monde qui réfléchit, qui participe. C'est énergivore, hein, que ce soit physique ou mental. Hein.
Complètement. Alors, il y a beaucoup de SMS hein, qui sont provoqués par cet odieux messages que l'on a reçus. Intolérance quand tu nous tiens. Si cette personne devait faire les efforts que fait Amandine, je voudrais bien entendre son témoignage, nous dit Annie. Christine nous dit « Bonsoir Olivier, les gens sont souvent gênés par le handicap. Ils devraient se garder avant d'affirmer ce qu'ils ne connaissent pas. » Jean nous dit « Il est important de dire à cette personne qui a écrit cet odieux SMS que les places handicapées sont faites pour laisser la place au fauteuil et sont donc plus grandes. » C'est vrai, vous avez raison de le préciser, Jean. C'est sûr que la connerie est un handicap invisible, nous dit Cléron. Bravo Amandine et courage. Et nous avons un dernier message qui dit « Les gens occupent les places GIC avec la carte d'autrui. C'est une grande mode. Je n'ai pas les 900 euros. Je suis moi-même handicapé. Mais ma retraite me suffit. Je comprends cette dame. Avec, même avec deux cannes à 80%, le respect à voir aussi. Je ne comprends pas bien la fin du message. Ça veut peut-être dire que à 80% handicapé, je mérite aussi le respect, mais bien évidemment. Et c'est signé V. Voilà, Amandine. Bon, je pense que bon, on a milité encore ce soir. Voilà. Vous voyez que nombreux et nombreuses sont les personnes qui écoutent cette Libre Antenne, qui ont bien conscience hein, qu'il faut respecter tout ça, avancer. Et je vous le dis, faire des réflexions aux gens qui se garent sur les places handicapées et quand vous voyez qu'il n'y a pas de macarons. Ouais. Moi, je le fais. Je vous le dis, je le fais. J'hésitais à le dire parce que je me suis dit, est-ce que tu ne vas pas passer pour monsieur, je la ramène, hein, monsieur qui est un peu connu et qui... Mais je le fais. Et
c'est gentil.
Mais non, mais je ne cherche pas à être gentil. Non, si. Je trouve que c'est un respect citoyen de faire ça, parce que je pense que si les citoyens, qu'ils soient handicapés ou non handicapés, je pense qu'on doit faire remarquer à ces gens et leur foutre un peu la honte, vous voyez ? Parce que finalement, personne ne leur dit jamais rien, sauf s'il y a une personne porteuse d'un handicap qui... qui est là, qui dit « Vous n'avez pas votre macaron, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ?» Mais finalement, les personnes qui n'ont pas de handicap réagissent rarement à ces comportements anti-citoyens, parce que pour moi, ce sont des comportements anti-citoyens.
Bon, y en a beaucoup qui vont nous dire qu'ils n'en ont que pour 2 minutes, mais moi aussi, j'aimerais bien en avoir que pour 2 minutes de sortir
minutes,
de ma voiture.
2 minutes, c'est 2 minutes. Si voilà. Dans les 30 secondes, vous arrivez, les 2 minutes, elles sont longues.
Non, mais vous savez, sur mon lieu de travail, j'ai mes collègues qui font régulièrement la police en disant « ma responsable arrive, elle a besoin de la place. »« Ah, pardon. » Ou parfois, c'est « j'en ai pour 2 minutes. » Oui, ma collègue elle va avoir besoin de la place et c'est pas pour 2 minutes, quoi.
Mais c'est sûr que la tentation est grande quand vous en avez pour 1 minute que vous allez chercher une baguette de pain. Mmh. Mais même ça, il faut s'imposer de ne pas faire ça. De toute façon.
Oui,
voilà.
Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer ce soir. C'est faites attention là où vous vous garez. Et même sans vous garer sur une place PMR, de ne pas mordre les lignes. Parce que les places sont larges pour les fauteuils roulants, mais pas que. Il y a aussi les personnes amputées qui ont besoin d'avoir une large ouverture de porte, les personnes qui ont fait un AVC qui n'ont pas toute leur amplitude. Enfin, je cite des exemples comme ça, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a pas que... Les places sont larges, mais pas seulement que pour les fauteuils roulants. Et je veux faire passer le message parce que il est important aussi.
Complètement, vous avez complètement raison. Excusez-moi, j'étais en train de ramasser mon stylo. Christine nous dit, avec tout ce que les handicapés supportent et ce que leur famille supporte, 903,60 € actuellement, eh bien, ce n'est pas trop, en fait. Sans doute, Christine touche, elle, une pension, ou peut-être a-t-elle quelqu'un dans sa famille qui est porteuse de handicap, mais voilà, 900 € pour pension. Ouais. Je ne pense pas qu'on soit dans des délires.
Non.
Mais bon, on remercie quand même cette personne de nous avoir écrit cet odieux SMS. Ça a permis ça nous a permis d'aller plus loin et de voir combien celles et ceux qui écoutent la Libre Antenne se révoltent lorsque voilà, il y a
Derrière une personne en fauteuil, c'est pas juste des jambes qui fonctionnent plus. Hein. C'est des troubles de l'incontinence. Hein. C'est des risques d'escarre. C'est plein de choses quoi qu'on n'imagine pas et c'est notre quotidien. Donc voilà, quand j'entends des personnes nous dire qu'on n'a pas à se plaindre parce qu'on est des privilégiés, j'ai envie de vous dire, pissez-vous dessus et puis on en reparle, quoi.
Oui, c'est une idée.
Voilà.
Bon, eh ben, écoutez, Amandine, merci pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, courage à vous. De toute façon, vous en avez. Vous en avez même à revendre, je le sens. Et embrassez bien votre mari et votre petite fille pour nous. Et n'hésitez pas à nous rappeler. S'il y a un problème, on est
ensuite,
là.
Ensuite, je partage sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui veulent me rejoindre. Ils sont les bienvenus.
On vous trouve où? Dites-nous.
Alors, sur Instagram, c'est Capucine Bionique.
Capucine bionique, d'accord.
Voilà, j'aime bien partager mes histoires de stationnement.
Ok, bionique s'écrit vent, B-I-O-N-I-Q-U-E.
Voilà. C'est exact, voilà.
Très bien, et eh bien passez une bonne soirée Amandine, bonsoir.
Très très bonne soirée, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.